Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et cette semaine, nous recevons le docteur Tidiane Ouattara, responsable de la division de la science, de la technologie et de l'espace au sein du département de l'éducation des sciences, de la technologie et de l'innovation de la Commission de l'Union africaine. Alors, nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec vous, docteur Ouattara, sur le rôle de ce département ainsi que les enjeux du programme spatial africain. Et pour commencer, pouvez-vous d'abord nous en dire un peu plus sur votre parcours ?
Voilà, je suis Tidiane Ouattara, je suis né en Côte d'Ivoire, donc je suis ivoirien. J'ai fait mon parcours universitaire en Côte d'Ivoire et après ma maîtrise en géographie physique, j'ai rejoint le Canada où j'ai fait une maîtrise en télédétection, système d'information géographique et j'ai fait un doctorat aussi là. Et j'ai été recruté à l'Université de Sherbrooke comme enseignant-chercheur. Et après, j'ai rejoint le gouvernement fédéral au ministère des Ressources naturelles du Canada comme chercheur. Et j'y ai commencé aussi le métier de gestion d'officier de relations internationales. Et après, j'ai été recruté à l'Agence spatiale canadienne comme gestionnaire des relations internationales et aussi conseiller spécial du président de l'Agence spatiale, Marc Garneau. Et 2-3 ans après, j'ai été recruté comme conseiller spécial du ministre des Ressources naturelles du Canada pour les sciences, technologies et à l'international, bien sûr. Et j'ai été aussi collaborateur du scientifique en chef qu'on appelle Chief Scientist du ministère des Ressources naturelles du Canada. Et voilà, par la suite, j'ai été nommé pour m'occuper du programme géospatial du ministère de l'Environnement du Canada pour la biodiversité, les aires protégées et aussi la faune et la flore. C'est de là-bas que j'ai été recruté par la Commission de l'Union africaine pour m'occuper du programme spatial africain et spécifiquement pour mettre en œuvre un programme de partenariat dans l'utilisation de l'espace pour le développement durable, gestion des ressources naturelles, eau, et puis des zones marines et côtières, programme conjoint avec la Commission européenne qu'on appelle GMS et Africa. Et depuis décembre 2023, j'ai été nommé chef de la nouvelle division sciences, technologies et espace, une nouvelle division suite à la restructuration de la Commission de l'Union africaine.
Très bien. Et alors, quel est l'objectif de cette division que vous dirigez, avec votre équipe, bien sûr, et quels sont les principaux projets sur lesquels vous travaillez?
Cette nouvelle division a 2-3 objectifs simples. Le premier objectif, c'est de traduire la vision de l'Union africaine, donc des chefs d'État et de gouvernement, en ce qui concerne l'agenda 2063, c'est de positionner la science, la technologie et l'espace au cœur de la mise en œuvre de cet agenda 2063, qui est comme la boussole. Vous y avez cette aspiration, c'est de faire en sorte que la science, la technologie, l'innovation et l'espace contribuent à la mise en œuvre de ces aspirations-là, à la réalisation de ces aspirations. Deuxièmement, c'est de m'assurer en tant que chef de division, que les sciences, technologies, innovation et espace contribuent au développement socio-économique durable de l'Afrique en mobilisant non seulement tous les partenaires internationaux et régionaux, nationaux et continentaux autour des thèmes prioritaires des 10 années, parce qu'on a des plans de mise en œuvre de l'agenda de 2063, ce sont des plans décennaux chaque 10 ans, parce que 2063, c'est 50 ans. Donc, chaque 10 ans, on a un plan de mise en œuvre. Le premier plan de mise en œuvre vient de finir en 2023. Et nous sommes à pied d'œuvre pour finaliser le deuxième plan. Et donc, mon travail, c'est de m'assurer que les sciences et technologies sont partie prenante pour la mise en œuvre de ce plan-là. Et nous avons aussi le rôle d'advocacy, donc de plaidoyer, de promotion et de mobilisation des ressources humaines ou financières ou infrastructurelles. Voilà rapidement ce que je peux dire Et ma division est en charge de la mise en place de l'Agence spatiale africaine, dont les statuts ont été votés, dont l'accord de siège a été signé avec l'Égypte, donc ça sera au Caire. Et mon travail, c'est de m'assurer que l'Agence spatiale puisse être opérationnelle et que les ressources humaines soient recrutées et que les infrastructures soient en place et que cette agence soit opérationnelle. Voilà de façon ramassée l'objectif que j'ai dans mon cahier des charges.
Justement, en lien avec cette agence spatiale africaine que vous évoquez, est-ce qu'il existe aujourd'hui, selon vous, une réelle stratégie panafricaine en matière de conquête spatiale?
En fait, nous, on regarde pas ça sous forme de conquête, parce que nous sommes nouveaux dans le domaine spatial. Nous avons effectivement une politique et une stratégie spatiale africaine. Ces deux documents concentrent l'effort africain à utiliser les technologies et le savoir-faire spatial pour le développement économique de l'Afrique. Parce que dans le domaine spatial, il y a beaucoup de développements en termes de robotique, en termes de télécommunication par satellite, en termes de gestion des ressources naturelles. Notre continent est vaste, il y a des pays qui sont très grands, les méthodes traditionnelles ne peuvent plus, il y a des cartes topographiques qui datent de 1950. Donc avec les images satellites aujourd'hui, les pays peuvent avoir l'information quasi à quasi temps réel sur leur continent ou sur leur pays, pardon. Et donc nous, on s'assure que les Africains s'accaparent de ces technologies-là pour ces besoins primaires. La télécommunication par satellite, vous devez le savoir, et je sais que vous le savez, l'Afrique est le pays le moins connecté, le continent le moins connecté au monde. Et nous nous attendons à ce qu'on ne peut pas mettre les fibres optiques partout. Donc, les sciences spatiales, les satellites de télécommunication, avec les nouveaux développements Starlink, Web One et d'autres initiatives qui arrivent, où des milliers de satellites seront lancés pour la télécommunication, nous nous attendons à ce que l'Afrique soit désenclavée en termes de connectivité. Et pour pouvoir le faire, ou pour pouvoir s'accaparer de la science et de la connaissance au niveau science spatiale, au niveau spatial, il faut éduquer les gens, il faut former les gens. Donc, nous, une des priorités, c'est la formation de la masse critique à tous les niveaux pour que les Africains possèdent cette science et puissent mener les actions en fonction de leurs priorités. Voilà de façon ramassée. Le programme spatial, effectivement, existe. La gouvernance, c'est de ça dont je vous ai parlé, c'est l'Agence spatiale africaine. Ça, c'est la gouvernance, elle est statutaire et tout, voilà. Mais au niveau programmatique, et c'est l'opportunité de saluer tous nos partenaires, notamment les Européens, la Commission européenne, qui, avec des institutions européennes telles que EUMETSAT, le Centre commun de recherche qu'on appelle GRC en Italie et l'Agence spatiale européenne, nous accompagnent dans non seulement la mise en œuvre de la gouvernance, mais dans la programmation et dans la réalisation de projets à travers GMS in Africa, où on utilise les satellites du système Copernicus, donc la série des Sentinelles, pour ces enjeux-là.
Très bien. J'aimerais à présent vous poser une question sur les compétences africaines dans le domaine des nouvelles technologies d'une manière générale. Comment peut-on, selon vous, renforcer la formation africaine et éviter surtout le concept de fuite des cerveaux que nous connaissons très très bien sur le continent?
Voilà, ça c'est une très belle question. Je suis moi-même issu de la diaspora, donc j'ai fui à un moment donné et je suis revenu. Mais ce que je peux vous dire, c'est une très belle question que vous posez. D'abord, il faut s'assurer que les formations se fassent en Afrique. Les formations, nous avons eu la chance d'y aller, ça coûte cher en Europe ou en Amérique. Et deux fois, ce n'est pas dans le contexte africain. Donc, c'est dans un autre type d'environnement, avec d'autres types de possibilités qu'on n'a pas forcément en Afrique. Et ce serait bien qu'on fasse beaucoup de formations en Afrique. Mais en même temps, on peut toujours faire des formations hors de l'Afrique. Mais il faut s'assurer que ces formations-là répondre aux besoins de l'Afrique. Et troisièmement, la fuite de cerveau, il y a toujours des raisons. Donc, il faut s'attaquer aux raisons. Mais je ne vais pas venir sur ça. Ça, c'est des raisons d'ordre politique, économique ou structurel. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut percevoir trois types de formations. Et c'est ce que nous avons dans le cadre de JMS, où nous avons pu former plus de 10 000 Africains sur le continent. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui a fui parce que nous avons trois méthodes de formation. Il y a la méthode traditionnelle, donc en salle de classe, d'accord, conventionnelle. On dispatche un cours. Il y a ce qu'on appelle on-the-job training, c'est-à-dire que il y a des jeunes qu'on met en situation de travail. Certains appellent ça stage. Vous appellerez ça comme vous souhaiterez. Mais ce qui est important, c'est de mettre le jeune, récemment diplômé ou pas, dans un milieu professionnel de façon à ce qu'il apprenne de façon concrète les rudiments du métier. Et le troisième type de formation, c'est la formation en ligne. Et la formation en ligne, depuis la COVID, la formation en ligne s'est amplifiée en Afrique, dans le monde bien sûr, mais en Afrique aussi. Et ce qui a permis à l'Afrique d'accroître sa capacité infrastructurelle au niveau de pouvoir faire ces choses-là à distance.
Alors, dans cette course à l'espace, pour le moment, nous entendons davantage parler d'initiatives nationales que continentales ou panafricaines. Dans ce domaine, justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que les pays africains sont prêts, selon vous, à coopérer? Et quels sont, selon vous, là aussi, les pays pionniers dans le domaine?
Alors, je vous remercie pour cette question. En fait, en Afrique, il y a trois types de pays dans le domaine spatial, hein. Il y a ceux qui sont les pionniers, donc qui ont commencé avant tout nous. Vous avez l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Vous citez ces quatre. À un certain degré, le Maroc. Vous avez la deuxième catégorie qu'on appelle les nouveaux venus, les newcomers. Vous avez l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, le Gabon, tous ces pays, même le Sénégal, qui viennent de créer leurs agences spatiales, ils sont en train de développer leur politique spatiale, etc. Et le troisième groupe de pays, c'est la plus grande partie des pays africains, sinon tous les pays africains même pourraient être inclus dans ça, c'est de gros consommateurs de produits spatiaux. Mais ils n'ont aucune politique, ils n'ont aucune structure nationale qui s'en occupe. Bon, vous allez trouver des bribes dans des universités, dans des laboratoires ici et là, mais ce n'est pas coordonné, ce n'est pas harmonisé. Ce qui fait que le potentiel dans le pays africain, dans le continent africain, est très élevé en termes d'utilisation des produits et services spatiaux. Et donc, nous, on refuse de parler de qui est leader. On parle plutôt de qui sont pionniers. Pourquoi? Et c'est pour répondre à votre question. La collaboration. Il y a 26 agences spatiales en Afrique, 26 à la date d'aujourd'hui. Le Sénégal étant la toute dernière et ce n'est pas fini, hein. Mais la nature même des activités spatiales oblige à la collaboration. Aucun pays, aucun individu, aucun institut sur cette terre, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ne peuvent se permettre à eux seuls d'aborder tous les domaines spatiaux. D'abord, un, c'est coûteux, donc il faut mettre les ressources ensemble. Deux, la nature même du sujet espace est très diversifiée. Donc, vous ne pouvez pas prétendre avoir toutes les ressources, toutes les expertises. Donc, il faut collaborer. Vous n'avez pas le choix. L'espace, on vous parle de ces quatre segments, deux fois carrément distincts. Vous avez l'observation de la Terre qui utilise les satellites pour prendre l'information sur le territoire. Vous avez la télécommunication par satellite. La télécommunication par satellite, vous avez tout ce qui est télévision, radio, plein d'applications. Et puis vous avez la navigation et le positionnement dans l'aviation, dans l'agriculture de précision, etc. Et vous avez l'astronomie qui vraiment a un impact sur les calendriers lunaires, etc. Bon, bref. Voyez-vous, un pays, un institut ne peut pas avoir toutes les compétences. Et quand vous prenez un segment donné, vous avez des milliers de compétences. Et en plus de cela, Ça, c'est le côté pure science de la chose. Mais les métiers que j'appelle les métiers coronaires, pardon, des métiers qui sont en parallèle ou des métiers de support tels que la législation, donc il faut des experts en loi, donc le space law, donc la loi spatiale, les traités, les conventions, ça prend des juristes qui s'y connaissent. Vous avez la communication, on ne communique pas sur l'espace comme on communique sur les autres. Voyez-vous, il y a tous ces domaines-là qui viennent pour compléter l'écosystème de l'économie spatiale. Donc, la collaboration entre les pays africains est une obligation et une nécessité.
Eh bien, écoutez, nous allons conclure cet échange fort intéressant et fort passionnant avec vous, docteur Tidiane Ouattara. Nous allons le conclure sur cette dernière réflexion. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.